réalité différente du stress dont vous traitez dans cet article et que ses causes et ses solutions sont également différentes. Pourtant, on parle généralement de stress post-traumatique. Pourriez-vous préciser quelles sont les différences ?
La différence principale est la suivante. Le stress est le résultat d'une situation de tension durable, alors que les réactions post-traumatiques viennent de situations extrêmes où l'intensité et la gravité de la menace suffisent à provoquer un déséquilibre important. Par exemple, être toujours obligé de fournir un rendement élevé peut conduire au stress, mais il suffit parfois d'être pris en otage pendant quelques minutes pour subir un choc traumatique et souffrir d'une réaction de stress post-traumatique. Les symptômes du stress post-traumatique incluent des réactions différentes, comme les flashbacks, les cauchemars répétés et l'hypervigilance, un état d'alerte excessif et relativement constant. Il faut aussi comprendre qu'une partie importante de la solution consiste à revivre, mais de façon active et expressive, les événements et les émotions qui ont été bloqués dans la situation traumatique. Bien sûr, plusieurs autres dimensions sont présentes et plusieurs complications peuvent survenir. Mais il demeure qu'il s'agit d'une réalité psychique différente du stress ordinaire. Il est utile de les distinguer clairement pour bien les comprendre et y apporter les solutions appropriées.
Maladie moderne. Le stress peut-il être considéré comme une maladie nouvelle qui découle du rythme de la vie moderne ?
Hans Ely publiait en 1957 son premier livre sur le stress. Il serait difficile de considérer, 45 ans plus tard, qu'il s'agit d'un phénomène nouveau. Cependant, il est de plus en plus connu. En ce sens, on peut le considérer comme un problème émergent. Néanmoins, le rythme de vie des années 1950 n'avait pas grand-chose de commun avec celui que tous considèrent maintenant comme normal. On ne peut considérer raisonnablement que les conditions de vie actuelles soient au centre de cette réalité, même si elles peuvent contribuer à son importance. Une maladie, le stress en soi n'est pas une maladie, mais il peut conduire à plusieurs maladies s'il est mal géré trop longtemps. Ce qui peut être considéré comme une maladie, à part les nombreuses maladies qui peuvent découler du stress, c'est l'incapacité de tolérer un niveau de stress normal. Mais alors, on parle généralement de burn-out et non de stress. L'organisme, dont on a exagérément dépassé les limites, est devenu hypersensible à la pression. Les solutions sont alors différentes.
Les causes physiologiques. N'est-il pas dernièrement question que le stress soit dû à une protéine synthétisée par la cellule ?
Il faut toujours interpréter les corrélations dont nous entendons parler dans les journaux avec la plus grande prudence. Souvent, on n'y distingue pas de concomitance et causalité. La concomitance est le fait que deux phénomènes arrivent ensemble. La causalité ajoute une dimension très importante. La présence d'un phénomène entraîne celle de l'autre. Que le stress puisse s'accompagner, dans la structure cellulaire comme ailleurs, de phénomènes particuliers identifiables ne signifie aucunement que ces phénomènes soient des causes de stress. Il pourrait aussi en être des effets. Il pourrait même n'être lié au stress d'aucune façon, car les statistiques ne peuvent conclure une telle certitude. C'est seulement par l'accumulation de recherches bien faites qu'on pourrait arriver à une telle conclusion. Malheureusement, les revues de vulgarisation scientifique et les autres publications qui nous informent à propos de ces recherches ne vont jamais aussi loin.
Le stress chez les personnes handicapées. Je voudrais savoir si les personnes handicapées ont une attitude particulière face aux situations stressantes.
Nous n'avons pas étudié les particularités du stress chez les personnes handicapées. Il est cependant possible de donner des éléments de réflexion qui pourraient faire partie d'une réponse. Les personnes handicapées peuvent être sujettes au stress comme les autres, mais on peut douter qu'elles le soient plus que bien d'autres groupes de personnes. Contrairement au policier, par exemple, qui est nécessairement en situation propice au stress, une personne handicapée ne l'est pas automatiquement. Tout dépend des conditions particulières et de la façon dont l'individu réagit à celles-ci. Il ne faut pas oublier que la catégorie « handicapé » est un concept qui ne correspond pas nécessairement à une réalité psychique. Selon le handicap et selon la personnalité, les réactions seront très différentes et toute tentative de généralisation sera risquée. Le fait que cette personne handicapée souffre de stress ne peut être attribué d'emblée à son handicap. Le stress est dû à une façon inefficace de réagir. En souffrir est à la portée de tout le monde. Il faut une perception du danger, une mobilisation de l'organisme et une inhibition de l'action, de combat ou de fuite. Ce ne sont jamais les caractéristiques de la situation qui rendent une personne stressée. Ce sont toujours ses propres façons de réagir à sa situation. Même quand les situations sont particulièrement difficiles, comme pour le policier évoqué plus haut, c'est encore l'adaptation de chaque individu à son expérience intérieure qui en est l'élément crucial. En somme, les statistiques sur la fréquence du stress pathologique peuvent nous dire qu'il est plus difficile pour un plus grand nombre de personnes de gérer adéquatement leur stress dans un contexte particulier. Mais c'est toujours sur le plan individuel que cela se joue, et chacun est capable de trouver des solutions qui tiennent compte de sa situation et de ses capacités particulières. Néanmoins, un handicap moteur pourrait avoir un effet indirect sur le stress, dans la mesure où il rendrait impossible une action physique servant d'exutoire à la mobilisation de l'organisme devant une menace. Mais la plupart du temps, les personnes handicapées disposent d'autres moyens d'extérioriser physiquement leurs réactions, ce qui leur permet de retrouver un équilibre dans une situation difficile malgré un handicap qui entrave l'action à laquelle les autres recourent spontanément dans une situation équivalente.
Causes physiques, psychiques ou sociales. J'ai lu un article qui prétend que la guérison de certaines maladies physiques peut être favorisée par la résolution de conflits psychiques de la personne malade. Qu'en pensez-vous ?
Il y a longtemps qu'on a découvert l'importance des facteurs psychiques dans certaines maladies physiques. On a mis au point le concept de maladie psychosomatique pour désigner le problème où les composantes psychiques et physiques sont indissociables. À une époque, on avait même tendance à chercher des causes psychiques à tous les troubles physiques. À une autre époque, certains auteurs cherchaient à tout expliquer par l'influence de la société ou de l'éducation. Plusieurs recherches venaient alors confirmer l'importance de la société dans l'évolution de diverses maladies. À l'heure actuelle, la mode est plutôt aux explications physiques. Un grand nombre de recherches signalent qu'il peut y avoir des causes physiologiques aux problèmes psychologiques des hormones, des structures neurologiques ou même des gènes. Il s'agit de tendances qui se ressemblent et comportent toutes les mêmes dangers non négligeables. Il faut comprendre que les organismes vivants en général, et les humains en particulier, sont des êtres complexes, dont chacun fonctionne comme un tout. La distinction entre les forces psychiques, les forces physiologiques et les forces de l'environnement qui agissent sur un individu et à un moment particulier est avant tout théorique. Nous distinguons ces dimensions pour essayer de mettre de l'ordre dans notre compréhension de ce qui se passe, mais notre organisme ne s'embarrasse pas de ces séparations artificielles. Il fonctionne comme un tout. C'est comme un orchestre symphonique. On peut bien distinguer les cordes et les cuivres, mais il ne s'agit que de vue de l'esprit. La musique est la résultante unifiée des sons qu'émettent tous les instruments et leur interaction. Nous considérons que les trois tendances dont il est question correspondent à des points de vue et non à des réalités fondamentales. Chacun de ces points de vue met une dimension en lumière et apporte avec lui des possibilités d'action particulières. Mais s'il est considéré comme seul facteur ou comme seule explication qui compte, il impose aussi des limites artificielles à ce qu'on peut faire. Il faut noter également que, selon les lois de la statistique, il suffirait de multiplier les études pour en arriver à une corrélation significative, un lien scientifiquement acceptable, même lorsqu'il n'y a pas de lien réel. C'est pour cette raison qu'on donne toujours les résultats des sondages scientifiques avec des explications qui ressemblent à « la marge d'erreur de ce sondage est de 3% 19 fois sur 20 ». Cette précaution signifie que, selon les lois statistiques utilisées pour cette étude, les résultats d'un sondage sur 20 pourraient être faux sans qu'on puisse le savoir. Si nous examinons une personne du point de vue des influences qu'elle a subies, société, éducation, famille, nous trouverons toujours des corrélations statistiques pour étayer notre hypothèse de départ. Ces études nous amèneront à identifier des causes particulières et nous conduiront à des solutions qui y sont reliées. À cause de la façon de poser la question, on découvre des facteurs qui dépendent de l'environnement et on invente des solutions qui s'appuient sur l'éducation ou sur l'organisation de la société. De même, si on mène des études sur les facteurs neurologiques, des facteurs endocriniens ou la structure génétique, on trouvera forcément des corrélations de ce type. Les solutions seront alors entre les mains des neurologues ou passeront par la manipulation génétique ou celle des hormones. Il en va de même avec les explications psychologiques. Elles ne sont ni plus vraies ni plus fausses que les autres. Elles s'appuient sur les mêmes méthodes statistiques et ont les mêmes marges d'erreur comparables. Comme les autres, elles nous amènent à envisager des solutions d'un genre particulier, agir sur le fonctionnement psychique. Mais il existe une différence très importante, le pouvoir que nous pouvons y exercer nous-mêmes. La plupart du temps, les explications neurologiques, endocriniennes ou génétiques nous obligent à faire un acte de foi. Nous ne pouvons vraiment comprendre ni la cause, ni le remède. Nous devons nous en remettre à un spécialiste qui décide de quoi nous souffrons et qui est le seul à savoir comment y remédier. De même, les explications sociales ont tendance à nous échapper. Même si nous pouvons plus facilement les comprendre et évaluer dans quelle mesure elles nous semblent pertinentes, les solutions ne sont pas entre nos mains. Le gouvernement ou l'école sont les seuls à avoir les moyens d'agir. Mais dans les cas des explications psychologiques, nous exerçons un pouvoir nettement plus grand. Tous les humains sont un peu spécialistes en psychologie, car ils sont conscients de ce qui se passe en eux. Ils peuvent donc, bien souvent, faire la différence entre une explication psychologique plausible et une qui ne l'est pas. Il leur suffit de se servir de leur intelligence et de leur expérience pour vérifier directement ce qu'on leur explique. Mais ils peuvent en plus contribuer de façon déterminante à la solution. Même lorsqu'ils font appel à un spécialiste, leur contribution active fait habituellement partie du traitement. La réalité humaine est complexe et il faut se souvenir que les découpages de l'esprit que nous lui appliquons ne changent pas le fait qu'elle fonctionne comme un ensemble où chaque partie est liée à toutes les autres. Mais si nous devons choisir des explications partielles, nous croyons que les explications psychologiques sont plus avantageuses à cause du pouvoir qu'elles nous donnent sur notre destin.
Stress et compétition. Vous dites que l'exercice physique intense, incluant certains sports, permet la dépense d'énergie nécessaire en réponse à la mobilisation générale de l'organisme. Il s'agit donc d'un moyen de limiter le stress. Mais est-ce que c'est la même chose pour les gens qui font de la compétition sportive? Il me semble que la compétition est une situation très stressante en soi.
Encore une fois, il faut distinguer les facteurs stressants et le stress. Toute situation de compétition comporte des facteurs stressants. Plus l'enjeu est important, plus le risque de stress est élevé. Mais pour atteindre les meilleurs résultats possibles, la personne doit savoir gérer efficacement ce stress. Autrement, sa performance sera inférieure à ce qu'elle aurait pu être sans ce stress, à l'entraînement par exemple. Pour devenir un athlète d'élite, il faut nécessairement apprendre à gérer efficacement le stress inhérent à la compétition. Mais tous n'y parviennent pas de la même façon. Par exemple, si on observe quelques athlètes pendant une période assez longue, on en vient à distinguer clairement entre eux que les compétitions importantes stimulent à se dépasser et certains autres qui ont tendance à rester figés dans les grandes occasions. Qu'est-ce qui fait la différence ? Il semble que certains athlètes aient la difficulté à se mobiliser complètement pour un événement sportif ordinaire. Ils ont besoin d'un enjeu plus important pour être suffisamment stimulés. La mobilisation globale de l'organisme ne se fait vraiment que dans les rares moments où l'enjeu est majeur. Ces athlètes ne sont pas stressés par les grands championnats. Ils sont au contraire plus stimulés et donnent souvent leur meilleur rendement à cette occasion. Ce qui peut les exposer au stress, cependant, ce sont les critiques qu'ils subissent pour leur rendement plus ordinaire entre les moments de gloire. Ils doivent apprendre à vivre avec ces critiques, sans être trop menacés, donc mobilisés par la peur de la critique. D'autres ont un meilleur rendement dans les situations plus ordinaires. Ils ont tendance à se mobiliser facilement et à bien transformer leur mobilisation en action intense. Leur difficulté commence au moment où l'enjeu devient plus important. Leur intensité augmente tellement qu'ils sont en déséquilibre et n'arrivent plus à investir toute cette énergie dans l'action. On dit alors qu'ils figent. Ils se mettent à essayer plus ou moins consciemment de contenir leur intensité. Ils sont alors en grand danger de souffrir d'un stress qui serait dû à la compétition ou à ce qu'ils appellent généralement la pression. Mais les moments importants ne sont pas réservés aux athlètes. Un grand nombre de personnes vivent quotidiennement des situations aussi exigeantes que la compétition sportive. C'est le cas de beaucoup de gestionnaires, de la plupart des politiciens, des personnes qui travaillent dans les services d'urgence, policiers, pompiers, médecins, infirmières, etc. Leur situation est comparable à celle des athlètes de haut niveau et leur efficacité dans la gestion du stress est tout aussi essentielle. Nous vivons tous des situations d'urgence et nous pouvons tous reconnaître en nous les réactions qui sont attribuées ci-dessus aux athlètes. En sachant à quel type nous appartenons, nous sommes mieux en mesure de découvrir les moyens qui nous aideront le mieux à gérer adéquatement nos moments importants pour éviter de souffrir de stress.
Merci et à bientôt chez Audible.